Bonjour chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche de la Pentecôte. Et ce dimanche va vous donner une émission tout à fait particulière, parce qu'il y a un an, nous avions fait avec les mêmes intervenants une émission sur le même personnage, Robert Fitzgerald Kennedy, donc qui est aujourd'hui l'équivalent du ministre de la Santé aux États-Unis, donc un poste considérable. Et nous avions étudié dans une émission son programme. Et nous avions convenu de refaire une émission analogue un an plus tard. Parce que vous savez, les promesses n'engagent que ceux envers lesquels on les fait, hein, dans beaucoup de gouvernements. Et c'était l'occasion, évidemment, de voir si, par extraordinaire, dans un pays outre-Atlantique, eh bien, les promesses seraient, un an plus tard, des réalités. Donc c'est le thème tout à fait particulier de cette émission, autrement dit, Robert Kennedy, un champion luttant pour la santé des Américains, ce qui est quand même extraordinaire, parce que vous savez que dans nos pays, d'une certaine façon, le ministère de la Santé, c'est plutôt le ministère de la Maladie. C'est-à-dire que la médecine est focalisée sur la maladie beaucoup plus que sur les aspects positifs de la santé. Enfin, disons, ça c'est mon opinion personnelle, ce n'est peut-être pas celle de mon invité Bernard Roulet, qui est ancien cancérologue dans les hospitaliers et qui, évidemment, a une approche très, très intéressante, vous le verrez, de ce que Robert Kennedy a pu faire et de la santé d'une manière générale. Et je salue également, mais à distance, Elisabeth Dansé, qui est journaliste libérale, qui a vécu un grand nombre d'années aux États-Unis, qui fait une veille sur les États-Unis avec un compte Substack qui lui est propre et qui a particulièrement étudié évidemment ce qui se passait du côté de la santé, puisqu'elle avait participé, alors il y a 2 ans je crois, à une émission sur le transhumanisme, donc à ce même micro. Bien, alors Elisabeth, je m'adresse à vous pour entamer cette émission sur la personne de Robert Kennedy. Alors évidemment, vous allez nous dire comment il est arrivé à être secrétaire du HHS, et vous nous expliquerez ce que c'est que ce HHS. Mais avant d'en arriver à sa posture politique actuelle, pouvez-vous nous dire, mais très rapidement, qui est la personne de Kennedy? Quel genre d'homme est-ce? Qu'est-ce qui fait qu'il est d'ailleurs aussi attachant comme homme politique?
Oui, bonjour aux auditeurs. Est-ce que vous m'entendez bien là?
Oui, parce oui. Que moi je pense que oui.
Voilà, vous m'entendez, je suis bien audible, j'ai dû me reconnecter, donc j'espère que tout va bien. Donc bonjour aux auditeurs et bonjour à tous les deux qui êtes en studio. Donc moi je suis donc à distance et effectivement je me suis intéressée depuis plusieurs années d'abord à la famille Kennedy qui est une famille mondialement connue, mais la personnalité de Robert Kennedy est intéressante à plus d'un titre. Parce qu'en fait, c'est un avocat de l'environnement connu. Je rappelle juste que c'est le fils de Robert Kennedy, le frère de John Kennedy. Donc son oncle et son père ont été tous les deux assassinés dans leur rôle politique. Donc ça marque quand même une personnalité telle que la sienne. Il a très bien réussi dans le domaine de l'environnement, où il a défendu de gros procès qu'il a gagnés, notamment contre des industries polluantes. Et en fait, c'est surtout à la suite du fait qu'il avait dirigé une association qui s'appelle Children Health Defense, la défense de la santé des enfants, qui remettait en cause la politique vaccinale américaine, et demandait à ce qu'il y ait des études indépendantes en double aveugle qui soient menées pour assurer la fiabilité et la sécurité de ces vaccins. On en reparlera. qui l'a finalement amené au cours de la pandémie à vraiment s'intéresser de très près à ce qui se passait pendant cette crise Covid et a publié notamment un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma. Il a publié ça fin novembre 2021, donc en pleine crise Covid. Et ce livre a eu un grand retentissement, a été vendu à plus d'un million d'exemplaires et traduit en français d'ailleurs quelques mois plus tard. Hein,
Oui,
voilà,
d'ailleurs,
après.
pour les, à titre informatif pour les auditeurs, donc ce livre est édité par les éditions Marco Pieter et qui ont édité également un autre livre de lui, enfin, qui s'appelle Vacciné, non vacciné, qui est un livre d'un très grand intérêt parce que il fait état de d'études officielles depuis de nombreuses années qui comparent des cohortes de personnes vaccinées et de personnes non vaccinées. Ce genre d'étude qui est extrêmement peu accessible pour le grand public. Voilà, donc édition Marco Pieter, c'est un petit éditeur belge, mais de grand mérite.
Voilà, donc en fait, ce livre extrêmement bien documenté en a fait quand même quelqu'un qui connaît très bien son sujet. Et surtout, il a été, dès cette publication et ses prises de parole publiques, très controversé. Il a fait partie des personnalités qui ont été mises au ban de la société par la propagande durant la pandémie. Notamment, je crois qu'il avait un très gros compte, c'était pas Twitter, enfin un de ses comptes où il a été viré du jour au lendemain, il a perdu tous ceux qui le suivaient. Et c'est, je crois, cette pandémie qu'il a décidé à se présenter à la course pour l'élection présidentielle de 2024. Et là, il a vécu encore un autre drame, si je puis dire, puisqu'il a été rejeté par son propre parti, le Parti démocrate. Les Kennedy sont démocrates de père en fils depuis trois générations ou plus. Et le Parti démocrate a refusé qu'il fasse partie des primaires, où il aurait été amené notamment à débattre contre Kamala Harris, et je pense que ça aurait changé la donne de l'élection. Donc il est parti dans la course à la présidentielle en indépendant, et il était quand même, je rappelle aux auditeurs, crédité de 10 à 15% des voix, ce qui n'était pas rien hein, en tant qu'indépendant, dans plusieurs États démocrates notamment, où un certain nombre de républicains modérés, de démocrates modérés et d'indépendants étaient prêts à voter pour lui. Et puis il y a eu un grand retournement, puisqu'en août 2024, après des négociations certainement privées, il a décidé officiellement de rejoindre Trump. Donc c'était une grosse révolution puisque c'était deux partis qui normalement s'affrontent et a continué la campagne notamment dans certains États où Kennedy était très bien placé et a dit officiellement avec un discours d'homme d'État hein, qu'on peut retrouver sur Internet que finalement il avait évidemment des désaccords avec Trump mais il avait sur des points principaux, il était en accord et il avait comme objectif de lancer MAHA, donc Make America Healthy Again, rendre la santé aux Américains, et que Trump était tout à fait d'accord avec ça. Et donc on peut dire qu'il a contribué à la victoire de Trump en novembre 2024. Hein. Il lui a vraiment amené des électeurs que Trump n'aurait pas eu. Et bon, maintenant, la situation a beaucoup changé depuis, mais ça serait une autre émission à faire. En tout cas, ce qui a amené Robert Kennedy à ce poste de secrétaire du HHS, donc c'est ministère de la Santé et des Services sociaux. Il a été confirmé dans ce poste en février, effectivement, de l'année dernière, après son passage devant le Sénat, puisque le Sénat doit confirmer les hauts fonctionnaires qui prennent ces différents postes.
Enfin,
Donc voilà.
Ce qui est important, c'est que la manière dont il s'est retrouvé dans l'équipe Trump, d'une certaine façon, lui donne un poids que n'ont pas, je pense, les autres membres d'une équipe à la course présidentielle, il était un apporteur majeur de voix, et je pense que ça explique peut-être qu'il ait pu réussir à faire des choses qu'il s'était engagé à faire, mais que beaucoup de ministres, une fois en poste et face à l'inertie, face aux obstacles dont nous avons parlé, ne réussissent pas à accomplir leur programme.
Oui, tout à fait. Enfin, on verra au cours de cette interview qu'il y a beaucoup de réactions contre lui et contre ses réformes, mais il a effectivement un poids politique dans le gouvernement Trump que d'autres n'ont pas. Et pour ceux qui suivent la politique américaine, vous avez vu qu'il y a quand même une certaine valse des hauts fonctionnaires, et pour le moment, Robert Kennedy est toujours là.
Oui, effectivement. Alors, il est toujours là. Et justement, Bernard Roulet, je me tourne vers vous pour savoir pourquoi, justement, sur des sujets vraiment très importants, Kennedy est un personnage clivant.
Oui, bonjour, merci. Je suis très heureux de retrouver les auditeurs de Radio Courtoisie. Et c'est vrai que si on se souvient pas du ministre de la Santé américain précédent, ils sont restés anonymes, tandis que Kennedy fait la une de beaucoup d'articles dans les journaux comme français comme Le Monde, Le Figaro. On parle des décisions de Kennedy. Et on a parlé de son accession aussi, et de façon tout à fait extraordinaire par rapport au précédent.
Oui, alors que en France, les ministres de la Santé passent et leur nom est rapidement oublié.
Oui, c'est vrai. Et donc, je crois qu'il a été clivant à beaucoup de titres. D'abord, je crois que avant le Covid, c'était un avocat de l'environnement, comme ça a été bien dit par Elisabeth, et que le Covid a clivé la société américaine. En gros, républicains et démocrates, les États républicains étaient plus soucieux d'une liberté individuelle, de défense contre le confinement, etc. Un peu également méfiant vis-à-vis des vaccins. Qui était imposé de façon directe ou indirecte, alors que les États démocrates étaient favorables aux mesures. Donc là, il est, lui, venant du Parti démocrate, a clivé un peu le Parti démocrate. Et il a représenté un clivage dans la société, un peu comme un complotiste ou un populiste, en disant, il y en a marre, liberté, etc. Il a fait un discours à Berlin qui a été très remarqué dans ce
Ah,
sens.
effectivement, je me souviens de ce discours, mais ce discours était destiné aux auditeurs européens.
Oui.
Mais malgré tout, il a été, oui, il a joué un
Voilà.
rôle dans son dans sa campagne.
Et puis il est clivant aussi parce qu'il est un peu hors système. Comme l'a dit Elisabeth, et une analyse du Monde aussi que j'ai lue récemment, c'est le seul membre du gouvernement qui ait une existence personnelle propre. C'est-à-dire que les autres sont affiliés au Parti républicain. Voyez, lui, il a une existence politique personnelle propre, spécifique. Et ça, c'est pas tellement banal. Il clive dans un
Oui,
certain sens.
il échappe un peu aux dialectiques de parti,
Voilà.
qui sont le point faible des démocraties modernes, d'ailleurs.
Voilà. Alors, sur le Covid, donc, il a été assez nettement, on pourrait dire, complotiste, selon la terminologie des médias mais habituels, et c'est-à-dire il s'est méfié du laboratoire de Wuhan, il a accusé Fauci de corruption,
Alors justement, il faudrait
etc.
peut-être rappeler à quel point Fauci était un personnage important, parce que nos auditeurs
Alors,
n'ont
Fauci
peut-être pas
était
en vue.
le patron sauf erreur, du NIH, c'est-à-dire d'un organisme gigantesque de recherche, un peu comme c'était le patron de l'INSERM, du CNRS et à la fois dans le domaine de la santé en France. Et il a beaucoup influencé les recherches dans le sens des épidémies et des maladies infectieuses, c'est ce qu'il avait en charge, plutôt que des problèmes généraux de santé publique.
Et il a eu tenu ce poste pendant très longtemps.
Exact, très très longtemps, puisque il était, je crois, déjà en place en 86 quand il y avait eu une action de Kennedy.
Oui, c'est ça, c'est de l'ordre de 20 ans. Enfin, c'est oui. Tout à fait inhabituel comme longévité à un poste aussi important. Quoi.
Alors l'autre, donc il y a eu ce facteur clivant, il s'oppose dans le Covid, il s'oppose un peu sur le plan politique, il est original. Et il y a aussi les vaccins, puisqu'il est taxé d'être totalement anti-vax. La plupart du temps, il est classé comme anti-vax. Il est classé aussi, ce qui est une injure.
Oui, parce que moi j'ai lu le livre « Vacciné, non vacciné ». Il ne prend pas position systématiquement contre les vaccins. Ce qu'il demande, c'est que les vaccins prouvent leur efficacité, leur utilité et leur innocuité.
Tout à fait.
Comme les autres médicaments.
Mais, si vous voulez, classer quelqu'un d'anti-vax, c'est quand même jeter un opprobre. Anti-vax, les officiels et la théorie officielle ont dans la tête, et ils l'expriment, que les vaccins ont sauvé 2 millions de personnes par an dans le monde, 150 millions au cours des 20 dernières années, c'est ce type de chiffre. Alors quand vous êtes critique vis-à-vis d'une méthode qui évite la mort, d'après les modèles, d'après certaines publications, de 150 millions de personnes, qui êtes-vous sinon un assassin? Voilà, donc là ça clive. La lutte vax-anti-vax est encore prégnante, mais en réalité, il n'est pas systématiquement anti-vax. J'en reparlerai peut-être quand on étudiera à la fin de l'émission le calendrier vaccinal, mais qu'il a modifié chez les enfants. Mais il a toujours dit « je ne suis pas anti-vax ». J'ai même sa citation exacte à propos des vaccins. On me dit que je suis anti-vax, alors que j'ai été contre le mercure dans les poissons, j'étais pas anti-poisson. J'ai été pour qu'on puisse manger du poisson sain dans la baie d'Hudson. Hein, voilà, donc c'est exactement pareil. Et il a terminé cette phrase en disant je suis pour des vaccins sûrs et efficaces, ce qui n'est pas le cas du vaccin anti-Covid, qui n'est ni sûr ni efficace. Donc il était quand même franchement hostile au vaccin anti-Covid, en particulier vaccin ARN-M, messager.
Ce en quoi d'ailleurs il rejoignait l'opinion d'un grand nombre de scientifiques, non seulement américains, mais dans d'autres pays.
On l'a interrogé, mais vous avez utilisé des vaccins? Il a dit oui, je me fais vacciner contre la grippe jusqu'en 2005 tous les ans. Et puis à ce moment-là, je me suis aperçu que ça pouvait provoquer une laryngite spasmodique. Or, j'ai une laryngite spasmodique.
Oui, effectivement, il a une voix.
Qui explique ma voix chevrotante.
Ah oui, c'est pas un fumeur.
Non.
Non.
Et il a expliqué, il a dit, c'est un effet connu de vaccin. Personnellement, je ne le connaissais pas spécialement comme très fréquent. Enfin bon, il l'a rattaché au vaccin et depuis, donc il s'est vacciné lui-même contre la grippe, ce qui est une option. Voilà. Donc, il est clivant, je pense qu'il dans le monde des affaires aussi, parce que les intérêts financiers de pharmaceutiques et de l'industrie des vaccins sont colossaux. Donc, effectivement, cette industrie peut dire, attention, il va nous baisser notre chiffre d'affaires, il faut tout faire contre lui, à tort ou à raison d'ailleurs, mais c'est comme ça. Il est perçu comme un danger, donc il est clivant, et en le catégorisant anti-vax, on essaye de le tuer, politiquement et sanitairement.
Voilà, donc, et malgré tous ces obstacles et tous ces adversaires, donc il se trouve aujourd'hui à la tête du HHS. Donc Elisabeth, vous allez nous expliquer ce que c'est que ce monstre HHS.
Oui, en effet, parce que je crois que c'est important que les auditeurs se rendent compte un peu plus précisément de à quoi Robert Kennedy a affaire, puisque le HHS, donc qui est cette énorme agence en charge de la santé ou des maladies et des services sociaux américains, c'est vraiment un mastodonte pour lequel d'ailleurs il a entrepris une restructuration dès sa nomination en février 2025. Donc pour vous donner une idée, c'est quand même 80 000 personnes, 80 000 personnes, un budget de 1,8 billion avec un B. De dollars. Donc, c'est le plus gros budget de l'agence du gouvernement fédéral américain devant le ministère de la Défense. Devant le ministère de la Défense. Donc,
Oui,
vous voyez,
c'est
c'est
important. Oui.
vraiment
Mais alors là,
énorme.
c'est un budget fédéral.
C'est un
Mais
budget
alors,
fédéral.
est-ce que la santé aux États-Unis n'est pas d'abord assurée par les États?
Alors, non, en fait, ce secrétaire, enfin, ils appellent ça des secrétariats, hein, non pas des ministères, a été créé en 1953, hein, donc c'est très ancien, et c'est plutôt au sein de cette énorme bureaucratie qu'on retrouve des agences qui elles-mêmes ont ou non, selon leur raison d'être, des agences dans chacun des États. Alors, je pense qu'il faut rappeler quand même aux auditeurs trois grandes agences que tout le monde connaît au moins de nom. La première, c'est le CDC, Center for Disease Control. Donc, c'est la protection de la santé publique des Américains contre les maladies infectieuses, les maladies chroniques, et les situations d'urgence. Hein,
Mais
c'est
alors,
là qu'il y a.
justement, là, on parle toujours du CDC d'Atlanta. Donc,
Alors, ça veut
c'est
dire.
local, c'est dans un État, non?
Non, c'est simplement que il y a eu une politique il y a quelques années de déporter certaines agences fédérales en dehors de Washington, D.C. Donc le hub, enfin le centre du CDC se trouve à Atlanta, mais il couvre bien l'ensemble du pays. Et ensuite, il y a 10 sous-agences du CDC réparties sur tout le territoire. C'est important le CDC, notamment parce que donc, quand il y a eu la situation d'urgence décrétée pour le Covid, eh bien, c'est le CDC qui en a été chargé. Et c'est là aussi qu'on trouve le comité dont on reparlera, qui est chargé de recommander le calendrier vaccinal à tous les États. Donc, il y a vraiment décisions qui sont prises au niveau du CDC qui concernent tous les Américains. Et on verra après, si on a le temps d'en parler, qu'il y a eu une valse des directeurs du CDC depuis le démarrage par Kennedy, enfin depuis la prise de poste par Kennedy, parce que les directeurs principaux doivent être confirmés par le
Le Sénat.
Sénat. Voilà, et celui qui avait été pressenti n'a pas été retenu. Après, je voulais quand même citer les deux autres qui sont la FDA, que tout le monde connaît, Food and Drug Administration. C'est vraiment le régulateur qui va faire les autorisations de mise sur le marché, mais pas seulement des médicaments, hein. C'est les médicaments, c'est les vaccins, c'est la nourriture, c'est les cosmétiques, c'est le tabac, enfin, c'est aussi une énorme agence bureaucratique, et celle-ci, elle a une sous-agence dans chaque État. Il y a 50 FDA dans chaque État américain à sa sous-agence, et là. C'est là où il y a les problèmes on dit en anglais revolving doors, enfin les portes tournantes, c'est-à-dire que les commissaires, on parle de commissaires, hein, comme on le fait à l'Union européenne, ce n'est pas du tout des termes européens, un commissaire du FDA qui ensuite se retrouve par exemple au board de Pfizer ou un ancien de l'industrie pharmaceutique qui devient commissaire. Or là, celui qui a été nommé, qui s'appelle Marty McCarry, c'est un médecin oncologue spécialiste du cancer du pancréas, je crois. Et lui, il était beaucoup moins clivant. Il avait été relativement silencieux en ce qui concernait les injections Covid. Par contre, il avait beaucoup critiqué la bureaucratie de la FDA et aussi le fait qu'on n'avait pas suffisamment mis en avant l'immunité collective, qui était bien connue des gens qui connaissent bien la santé publique. Et enfin, la plus grosse agence en termes de budget, c'est le NIH, National Institute of Health. Et là, c'est toutes les instituts de recherche. Et en fait, Fauci dirigeait un de ces instituts de recherche qui s'appelle NIAID. Alors, c'est l'Institut de recherche sur les maladies infectieuses. Et effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a été en poste pendant, je crois, presque 40 ans, enfin une longévité incroyable, ce qui fait qu'il est devenu le porte-parole des mesures prises pendant le Covid, alors qu'officiellement, ce n'était pas son poste, c'était celui qu'on appelle le chirurgien général, qui est celui chargé de la commission. Et juste pour terminer, donc un budget de 47 milliards de dollars, hein, le NIH, c'est les instituts de recherche sur le cancer, sur les maladies cardiovasculaires, sur les maladies infectieuses, sur le vieillissement, etc. Et le directeur qui a été nommé par Trump sur le conseil de Kennedy, c'est Jay Bhattacharya. Et j'insiste sur cette personnalité. Lui, il est toujours en place parce que c'est un professeur de médecine et de santé publique de Stanford. Et dès octobre 2020, il s'est opposé aux mesures préconisées par Fauci en disant il faut surtout pas fermer les écoles, surtout pas fermer les entreprises et les commerces, il faut isoler les personnes malades et les personnes à risque. Et que justement construire cette immunité collective. Donc il a eu une voix d'un expert reconnu qui est en poste quand même maintenant au sein du HHS. Donc voilà rapidement les grandes agences de ce mastodonte dont il a pris la direction il y a un peu plus de 15 mois maintenant.
Voilà, merci Elisabeth pour cette mise au point. Alors je rappelle aux auditeurs que vous écoutez actuellement Radio Courtoisie, l'émission Lumière de l'Espérance, et que nous recevons dans le studio le docteur Bernard Roulet, cancérologue, ancien médecin des hôpitaux, et disons à distance Elisabeth Dansé, journaliste. Et je rappelle que c'est une émission en direct. Et vous pouvez envoyer vos questions par courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Vos questions ou vos compléments d'information. Alors bien sûr, toutes les questions ne peuvent pas forcément être lues à l'antenne, mais toutes les questions seront remises aux intervenants et pourront avoir des réponses indépendamment de celles qui pourront être données par oral à l'émission. Donc, Kennedy, après diverses aventures personnelles et collectives et dans le parti, en changeant de parti, mais tout en gardant une personnalité personnelle, donc se retrouve à la tête de ce qu'on pourrait appeler donc le ministère de la Santé américain, qui est un immense mastodonte. Et ça fait à peu près un an qu'il est à la tête, ça fait même un peu plus d'un an qu'il est à la tête de ce mastodonte. Que peut-on dire, Bernard Roulet, de ses premières actions?
Alors, l'actualité est riche. Il passe pas deux mois sans qu'il y ait des décisions. Et les premières ont été très significatives de mon point de vue, puisqu'elles étaient liées aussi bien, elles étaient co-signées par Trump, le président Trump. Parmi la première décision, il y a eu la sortie des États-Unis de l'OMS. Alors l'OMS, Organisation mondiale de la santé, est un organisme dérivant des Nations unies qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale et qui avait pour objectif de afficher, d'assurer la meilleure santé possible à chaque être humain de la planète Terre, en gros. Et donc, évidemment, elle a des vues mondiales et elle a besoin de financements importants. Et elle ne s'occupe pas seulement de la santé, mais elle s'est occupée beaucoup de ce qui était mondial ou potentiellement mondial, c'est-à-dire des pandémies et des maladies infectieuses. Donc, à ce titre, elle est organisée aussi, enfin, il y a des études segments du continent par continent ou sous-continent par sous-continent. Et donc, c'est une organisation très importante.
Mais et dont les financements sont majoritairement privés aujourd'hui.
Alors, oui et non. Il y a au moment où, en 2025, au moment où le président Trump a voulu se retirer de l'OMS, alors il s'est retiré début 2025, ce qui fait que la décision n'est effective que début 2026, parce que les crédits étaient engagés. Mais à ce moment-là, en 2025, les USA étaient le premier financeur, à hauteur de 16 milliards de dollars environ. Il y avait d'autres financeurs privés, il y avait des finances d'État, de chaque État qui contribue, mais aussi des finances semi-privées ou privées, par exemple la fondation de M. Gates, Bill et Melinda Gates, subventionnée à hauteur de 12 milliards de dollars.
C'est presque autant que les États-Unis, voilà. C'est fabuleux.
Il y a un organisme qui s'appelle le Gavi, qui est un organisme qui est chargé de promouvoir la vaccination, également, ou d'aider à des politiques de vaccination dans le tiers-monde ou dans les pays qui le souhaitent, était financé à hauteur de 8 milliards. Donc, Gavi était également financé par les États-Unis, également par Bill Gates. Donc, on ne peut pas dire que l'OMS soit devenue une société privée, mais Bill Gates en particulier ne participe pas aux décisions de l'Assemblée générale ou du comité exécutif de l'OMS. Mais quand même, il a une influence et il peut fournir une logistique, notamment en matière de vaccination.
Et est-ce qu'il y a d'autres pays qui se sont retirés de l'OMS ?
Alors, dans la foulée du retrait des États-Unis, l'Argentine s'est retirée de l'OMS et l'Italie. C'est la notion que j'avais début 2025, mais en toute honnêteté, je n'ai pas vérifié s'il y avait d'autres pays plus récemment. Alors, il y a un professeur de médecine célèbre qui a d'ailleurs dit que l'Argentine était un peu punie de son retrait par l'apparition de
l'antivirus.
Alors, ça, je n'irai pas jusque-là, mais bon.
Donc ça, c'est la première décision,
La première décision.
Tout de suite de retrait.
Voilà, donc il y a eu une deuxième décision qui peut toucher aussi la santé de façon indirecte, c'est le retrait de la COP21, mais je ne veux pas en parler, c'est-à-dire de l'accord de Paris sur le climat. Et enfin, il y a eu...
Mais ça, c'est une décision de Trump, c'est pas une décision de Kennedy.
Oui, mais l'OMS aussi, c'est une décision de Trump. Ensuite, il y a eu on a parlé des nominations à la tête des grandes agences, hein, notamment Bhattacharya à la FDA, Makary au CDC, et puis au CDC, ça a été... NIH, pardon, Bhattacharya, FDA, Marty Makary. Au CDC, c'était Dave Weldon, qui a été remplacé par Suzanne Monares, qui a ensuite démissionné pendant l'été 2025. Donc ça... C'est très, labile. Ensuite, il a été nommé à la tête de Medicare, hein, c'est qui est un peu les assurances maladies de base des États-Unis. Un médecin qui s'appelait Oz et Mehmet, qui était assez hostile à la politique du Covid. On pourrait dire ces nominations, c'est la deuxième grande action immédiate. Ensuite, avec l'aide de Trump, il y a eu le démantèlement de l'USAID. L'USAID, c'est une agence pour le développement international des États-Unis. C'est un organisme un petit peu curieux qui mériterait des enquêtes approfondies, puisque il avait financé à hauteur de 58 milliards le laboratoire de Wuhan. Il finance également Gavi. On dit que la CIA a une, comment dire, une courroie de transmission dans cet organisme. C'est un organisme qui effectivement a soutenu, par exemple, des luttes contre le sida dans des pays comme le Cambodge, où ce problème n'était pas très bien pris en charge par les gouvernements, mais en même temps avait des objectifs un peu curieux dans certains autres domaines. Par exemple, il finançait la promotion de l'homosexualité au Pakistan. Enfin, vous voyez, on ne comprend pas tout. Donc là, les algorithmes de Musk sont intervenus, hein, et puis ils ont dépisté les mots diversité, théorie du genre, etc. Et donc on a carrément supprimé quasi à 99% le financement de l'USAID, ce qui a abouti à sûrement à des économies, mais aussi, d'après les détracteurs, à l'arrêt de soins à l'échelle internationale dans certains pays. Et les médecins humanitaires s'en plaignent. Mais il n'y avait pas que cet aspect. Ça, on a vu la patte de Musk qui, en fait, chassait le gaspille et d'une façon extrêmement brutale, puisqu'il y a eu des décisions consécutives à ces enquêtes. C'était le licenciement massif de personnel dans le CDC, dans l'FDA, etc. Je ne donne pas les chiffres, mais c'est très important. Alors, les deuxièmes actions, ça a été la plus rapide, c'était l'arrêt immédiat de vaccins, d'études de vaccins anti-Covid, parce qu'ils considéraient que c'était plus trop d'actualité.
Eh bien, c'est des vaccins à ARN messager ou...
Oui, non, il y a eu, le 21 février 2025, la suspension d'un essai de vaccin contre le Covid NextGen du laboratoire Vaxart, qui était financé par l'État à hauteur de 4,5 milliards d'euros, arrêt. En avril 2025, suppression de la subvention à Gavi, l'organisation de promotion des vaccins au niveau mondial. Elle était en partie en cours, donc on n'a pas pu tout supprimer, mais les chiffres... ce qui était engagé n'a pas été supprimé, mais une partie considérable des subventions ont été strictement supprimées.
On peut penser qu'à travers, évidemment, ces coupes budgétaires, c'était aussi une façon d'éliminer certaines personnes ou certaines actions et de favoriser d'autres actions. Donc, je dirais là... C'est quelque chose d'assez normal quand on veut vraiment changer les choses, de changer l'affectation de l'argent.
Oui, il y a chaque fois que le programme DEI, la diversité, équité, inclusion, apparaissait plus ou moins proche de l'activité de certains secteurs, et ils ont été supprimés. Parce que là, je vous rappelle que Trump a dit qu'il n'y a que deux sexes. Donc tout ce qui s'est attribué, qui était attribué à ces programmes, dépisté par les enquêtes du service de Musk, Doge, là, qui était chargé de faire des économies dans le secteur public, tout ça a été supprimé.
Remarquez, c'est un petit peu normal. On appelle santé reproductive quelque chose qui n'a rien à voir directement avec la santé. Donc c'est un abus de langage. Et à la limite que des algorithmes chassent les abus de langage, en tant que locuteur de français, ça me fait plutôt plaisir.
Oui, tout à fait, on peut le voir comme ça, oui. Alors après, il y a eu, je ne sais plus à quelle époque, Musk a été, écarté, mais
son département est resté. Donc,
Dodge est resté et a été efficace. Alors après, sur le plan sanitaire, il y a eu d'autres mesures quand même. Il y a eu la création... Bon, je passe sur les réductions de personnel, hein, moins 20 000 personnes. et division aussi, diminution dans les bureaux régionaux. Et il y avait la création d'une sous-agence spécifique des effets toxiques des vaccins et du Covid long et de la maladie de Lyme. Ça, Kennedy y tenait beaucoup, c'est-à-dire qu'on va étudier de plus près dans cette commission les effets tardifs ou semi-tardifs des vaccins en général. Et
Ça paraît, oui,
particulièrement
ça
Covid,
c'est une bonne chose, ça,
oui,
puisque
maladie de
il y avait
Lyme.
un manque flagrant, enfin.
Alors, en février 2025, ça c'était des petites revanches de la politique du Covid. On a supprimé les subventions fédérales aux écoles qui avaient obligé dans la période Covid la vaccination Covid des enfants, parce que la vaccination des Covid des enfants était dans le collimateur de Children Health Defense et du ministre de la Santé Robert Kennedy.
Mais les subventions fédérales aux écoles, là je m'adresse à vous, Elisabeth, ça n'est pas quelque chose de très important puisque les écoles sont plutôt locales ou dépendantes de l'État et pas du niveau fédéral. Ou est-ce que cette décision a eu un impact?
Pour moi, je pense qu'elle a eu un impact dans les écoles, effectivement, qui sont financées, enfin, qui vivent notamment du financement fédéral. Mais après, ce n'est pas le cas de toutes les écoles. Après, effectivement, c'est chaque État qui doit lui-même voter une loi similaire ou non. Disant, vous n'avez pas à demander, à exiger une vaccination Covid aux enfants dans les écoles de notre État. Et là, on va voir réapparaître la dichotomie qu'on a évoquée en début d'émission, à savoir que dans les États démocrates, il y a plus d'écoles qui exigent des vaccinations, dont le Covid, et dans les États républicains, on a plutôt tendance à revenir à une certaine liberté vaccinale. Parce qu'on reparlera du calendrier, je pense, vous verrez que c'est quand même pas gagné, hein.
Ça. Et
Alors,
côté,
dans les
oui, il y a le
autres.
vaccin, et côté alimentation, par exemple, est-ce qu'il y a eu des actions?
Oui, alors ça, c'est un gros sujet. On va en parler à la fin de l'émission, je
Oui, moi si
crois.
vous voulez. Oui.
Oui, mais sur le côté. Oui, les premières décisions concernaient l'alimentation des écoles. C'est-à-dire que Kennedy a pris le pouvoir en disant on va fixer un peu les menus dans les écoles. Au niveau fédéral, l'arrière-pensée étant une lutte contre l'alimentation hyper sophistiquée, ce qu'on appelle
Oui,
ultra transformée, etc. Voilà.
l'obésité des jeunes Américains.
Donc ça a été en avril 2025, la supervision des repas est passée au niveau fédéral et non pas seulement régional. Alors après, il y a eu toujours cette alternance. Politique générale et politique anti-Covid, luttant contre la politique Covid, la chasse à Fauci a été un peu instituée quand même. Il a été gracié par avance par une signature du président Biden juste avant son départ, mais Trump l'a accusé en avril d'avoir laissé diffuser un virus avec gain de fonction. Vous voyez, donc, et puis, toujours dans le mois d'avril 2025, il y a eu l'interdiction des colorants alimentaires d'origine pétrochimique par le directeur de la FDA, McCarry, et ça a été une interdiction totale et définitive qui a rapproché la législation américaine de la législation européenne. Ces colorants sont interdits en Europe.
Oui, déjà, oui, depuis
Oui,
longtemps. Donc, finalement, oui.
voilà, c'est.
Au moins un cas sur
Ça,
lequel
c'est. Voilà,
l'Europe
il
a
y a un
donné le
certain
ton.
consensus à ce sujet. Bon, et puis, en avril, il y a eu l'annonce par Kennedy de la création d'une commission d'enquête et d'études sur l'autisme en général et les rapports possibles entre les différents facteurs de risque de l'autisme et la survenue de l'autisme, et particulièrement, il y a une arrière-pensée vis-à-vis des vaccins. Voilà, ça, c'était le premier train de mesures dans ce contexte, je crois que on arrive en mai 2025. Je ne sais pas si Elisabeth veut parler à ce moment-là. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là au propos du calendrier vaccinal, c'est l'arrêt des recommandations de Covid chez les enfants et les femmes enceintes. Alors ça, c'était très important parce que dans le Covid, ça avait été classé comme comment dire, une mesure d'urgence qui déresponsabilisait les laboratoires, étant donné que c'était urgent, requis par le gouvernement. On considère les laboratoires pharmaceutiques producteurs, les industriels producteurs des vaccins, n'étaient pas juridiquement
responsables des effets.
Alors, le fait que ça soit supprimé de l'urgence les rendait à nouveau responsables, puisque à ce moment-là, c'était pas l'État qui l'imposait, il supprimait l'obligation dans ces deux populations, femmes enceintes et enfants. Et donc, voilà. Donc, il y a eu ensuite des actions qui sont qualifiées d'anti-vax. En mai, notamment, en juin, il y a eu l'annulation d'un contrat Moderna sur la grippe aviaire de 500 millions de dollars. Donc, c'est des coupes, ça fait mal dans les budgets
des laboratoires.
Et dans le budget recherche et développement. Et puis, il y a un organisme qui s'appelle l'ACIP, qui est l'équivalent de notre comité technique des vaccinations, qui groupe de nombreux experts, enfin de personnes chargées de donner leur avis sur l'utilité, l'efficacité des vaccinations. Et ce comité comportait 17 membres, qui avaient été nommés en 2000, peu de temps avant que Biden parte, enfin l'année avant. Et donc, Kennedy les a tous révoqués.
Oui.
En disant, voilà, donc il les a accusés de conflits d'intérêts persistants et graves. Et donc, ils ont été remplacés.
Alors ça, c'est très intéressant puisque ça nous, je dirais, dans un état normal. L'industrie est au service de la santé et le gouvernement... disons, représente le bien commun face à l'industrie. Mais on voit aujourd'hui, et c'est le cas aux États-Unis comme ailleurs, que l'industrie, par certains côtés, a la barre sur les gouvernements. Donc, il faut quand même saluer le fait qu'un ministre ait eu cette force et cette intention de mettre un peu en règle la... l'industrie. Nous allons faire une petite pause musicale maintenant et nous nous retrouvons aussitôt.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Donc vous êtes sur Radio Courtoisie et vous écoutez le journal dominical Lumière de l'Espérance, dirigé aujourd'hui par votre serviteur Dominique Tasso, et avec comme thème Robert Kennedy, un champion luttant pour la santé des Américains. Et nous recevons le docteur Bernard Roulet, cancérologue, ancien médecin des hôpitaux, et à distance, Elisabeth Dansay, conseil en développement personnel, américaniste, journaliste. Et il s'agit d'une émission en direct. Vous pouvez envoyer vos questions ou vos remarques par courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Nous avons regardé les premières décisions prises par Robert Kennedy dans son mandat. Et nous avons vu, évidemment, qu'il y avait inévitablement des tensions entre l'industrie pharmaceutique américaine et Robert Kennedy, puisqu'il prend des décisions qui ont pour effet de sabrer dans les budgets, de responsabiliser les laboratoires qui avaient l'habitude de se déresponsabiliser aux frais de l'État. Donc, Elisabeth Dansay, donc je m'adresse à vous maintenant. Est-ce qu'on peut dire que Kennedy réussit à rétablir une sorte de supériorité de la politique sur l'économie et sur l'industrie pharmaceutique?
Alors, c'est comme je l'avais dit en introduction, c'est un gros sujet, hein, étant donné que ces industries pharmaceutiques ont un énorme pouvoir, non seulement sur les organes de régulation comme la FDA dont on parlait tout à l'heure, mais aussi par le biais du lobbying qu'elles exercent sur les sénateurs et les membres du Congrès, hein, puisque vous savez que les lobbies de l'industrie pharmaceutique notamment, mais pas que, sont très puissants. Alors effectivement, Kennedy a annoncé la suppression, alors c'est environ 500 millions de dollars de contribution à des projets de recherche sur des vaccins à ARN messager. Donc déjà, c'est quand même un signe fort. C'est des projets à la fois contre la Covid, contre la grippe aviaire. Et ces financements de recherche donc venant du NIH étaient à destination de Moderna, de Pfizer, mais pas que, hein, de Sanofi Pasteur. On retrouve Sanofi Pasteur dans la liste. Et le fait qu'il coupe ce financement, bien sûr, on va dire, met des grains dans les rouages de ce mécanisme de captation des organes de régulation et de financement de l'État américain par les entreprises pharmaceutiques. Mais est-ce que ça sera suffisant? Moi, je suis pas très optimiste dans la mesure où ces changements... Cette habitude de de changer de poste, c'est-à-dire d'être à l'intérieur du gouvernement à un poste décisionnaire qui existait déjà sous le premier gouvernement Trump, hein, c'est-à-dire que les commissaires de la FDA qui ont géré la pandémie, le premier Gottlieb, il s'est retrouvé au bord de Pfizer, et le deuxième, Stefan Hahn, il s'est retrouvé dans la société de capital risque qui gère, qui est l'actionnaire majoritaire de Moderna. Donc ces mécanismes, ils sont toujours en place. Alors ce que Robert Kennedy Jr. sur le plan des consommateurs a voulu faire aussi, c'est supprimer la publicité des médicaments à la télévision. Sachant qu'il y a deux pays dans le monde où cette publicité est autorisée, c'est les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Les autres pays, normalement, c'est interdit. Et vous imaginez bien que ce sont des sources de financement importantes pour les médias, qui sont financés également par les laboratoires pharmaceutiques via cette publicité. Alors, ce qu'il voudrait, il ne peut pas du jour au lendemain demander la suppression de ses publicités, mais il voudrait que soient explicités de manière claire et transparente les effets secondaires de ces médicaments, de ces vaccins, etc. Donc, l'industrie est vent debout contre cette réforme. Évidemment, les médias ne supportent pas cette réforme non plus parce que c'est un manque à gagner. Donc, il y a de multiples actions en justice contre le HHS qui sont entreprises par les laboratoires pharmaceutiques en question. Et il y a même eu une forme de chantage de leur part en disant, bah, écoutez, il risque d'avoir des retards dans l'autorisation et la livraison des médicaments génériques auprès des patients. Donc vous voyez que la bagarre est loin d'être gagnée. Et en plus, Robert Kennedy a été à nouveau convoqué par le Sénat, je crois que c'était en septembre 2025, où là, si vous écoutez la manière dont il a été traité par les sénateurs, vous êtes vraiment sous le choc de leur agressivité, et notamment des sénateurs démocrates, hein, qui l'accusent de tous les maux. Si on vaccine plus les enfants, les maladies vont repartir aux États-Unis, les gens vont mourir, alors qu'on sait par ailleurs, hein, je suis allée vérifier, que les sénateurs en question sont eux-mêmes financés par l'industrie pharmaceutique lors de leur campagne. Donc, pour ma part, je trouve que c'est vraiment très difficile de gagner cette bataille. En tout cas, des actions sont entreprises, hein, avec les mesures qu'on a évoquées. Je crains qu'avec l'approche des midterms, qui arrive en novembre, Trump n'oblige Kennedy à mettre un peu la sourdine sur ses actions contre l'industrie pharmaceutique. On verra ce qui se passe dans les mois qui
Voilà,
viennent.
donc ça n'est pas gagné. De toute façon, rien n'est jamais gagné définitivement en ce bas monde. Une petite question, Bernard Roulet, en ce qui concerne le programme Santé des jeunes. On a parlé tout à l'heure
Oui.
de l'alimentation dans les écoles, mais il y a
Oui.
d'autres aspects.
Ça, c'est un petit bout de la lorgnette. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la partie diagnostic et la partie traitement, hein, comme dans toute question médicale, mais dans la santé des enfants américains, on peut dire qu'elle n'est pas bonne, globalement. Il y a une épidémie sur le plan de la morbidité, c'est-à-dire des maladies présentes. Il y a quasiment une épidémie d'asthme, de maladies auto-immunes et de diabète, même chez les jeunes. Quand on parle de jeunes, c'est moins de 20 ans, hein, de 0 à 20 ans. Et encore plus inquiétant, tout récemment a été démontré, les statistiques le prouvent, qu'il y a une augmentation de mortalité. Par rapport aux données antérieures, ça c'est une variation temporelle. Donc ça s'aggrave, la mortalité des jeunes a augmenté aux États-Unis, et si on la compare aux différents pays de l'OCDE, elle est plus élevée aux États-Unis que la moyenne des pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays développés en gros, hein. Donc Trump et Kennedy avaient donc voulu faire un diagnostic, un rapport sur la santé des enfants.
Mais tiens, finalement, la
D'où
santé
vient
ne va
ce...
pas avec le niveau de vie. Il y
Exactement.
a d'autres éléments
C'est
qui
un des
jouent.
gros problèmes du système de santé américain, qui n'est pas spécialement efficace, même pour les soins, si on le rapporte au coût qu'il coûte, hein. Alors, le rapport de mai 2025, MAHA Children, c'est-à-dire rendre les enfants plus sains, avait identifié des causes de maladies chroniques des enfants américains. Une première série de causes concernait l'alimentation qui est accusé d'une part d'être ultra transformé, c'est-à-dire d'utiliser des produits sans valeur diététique réelle, comme des édulcorants, des modificateurs de goût, etc., un excès de sucre. Donc cette alimentation ultra transformée, qui n'est pas si facile que ça à définir, mais enfin, globalement, on sait qu'elle est toxique, et elle peut même provoquer des carences si on diminue l'alimentation en produits végétaux, voilà. Et le premier axe, la première cause. La deuxième cause, c'est une exposition aux polluants chimiques ou environnementaux. Une troisième cause identifiée, c'est la sédentarité, c'est-à-dire l'absence d'activité physique, à la fois par une, comment dire, du fait des écrans qui occupent une partie très importante, plusieurs heures par jour, du temps libre des enfants, et aussi, d'après l'enquête et le rapport, par un manque d'infrastructures sportives à disposition partout sur le territoire. Quatrième cause, le stress chronique et l'hypermédicalisation. Voilà, donc ça explique peut-être également le mauvais état de santé mentale.
Et alors, si j'ai bien compris, hypermédicalisation, c'est-à-dire plus on se soigne, plus on est malade. C'est ça.
Oui, c'est ce que ça voudrait dire. Non, après, c'est assez à modérer en fonction des...
Bien sûr, non, mais c'est... Tout médicament n'est pas forcément salvateur.
Tout à fait. Kennedy a dit la santé ne s'établit pas avec des injections.
Ah oui,
il parle un peu comme parlait le naturiste, le médecin naturiste Carton, mm-hmm. qui critiquait le goût pour les extraordinaires de l'injection. L'injection, c'est pas ce qu'on avale, c'est une action donc sûrement beaucoup plus forte. Oui, mais en réalité. C'est pas parce qu'on se soigne beaucoup qu'on
est forcément en meilleure santé. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça.
Et puis, il y a l'iatrogénie, etc. Donc voilà les grandes causes. Et en septembre, ce qui a été défini, c'est une politique positive face à ce diagnostic. Et le rapport a comporté 120 mesures que je vais pas vous détailler. Mais parmi ces mesures, il y a des mesures administratives. Il y a des principes généraux qui ne sont pas forcément appliqués, déclinés dans des interdictions ou autres. Mais il y a d'abord la mise en place de recherches sur ces thèmes, un contrôle des interdictions et une éducation, notamment en matière d'alimentation. Et donc, on veut réaligner nutrition et santé. On veut mettre le corporatisme, c'était la fin de la captation de la santé par la médecine, et puis de faire appel dans les recommandations et dans la pratique ce qu'on appelle les gold standards scientifiques, c'est-à-dire ce qui est vraiment démontré comme étant utile pour l'alimentation, pour la santé, doit être mis en place.
Ouais, c'est ça,
sur des bases scientifiques.
Voilà, mais la vraie science. Ouais.
Voilà.
D'ailleurs,
a été un peu critiqué parce que c'est vrai que les adversaires ont dit oui, ça va pas assez loin. Il a mis en évidence, par exemple, la mortalité des nourrissons, elle a été attribuée à un excès de mort subite. Bon, c'est d'accord, ça Kennedy en parle, mais il parle pas de la mortalité des plus âgés, entre 15 et 20 ans, par arme à feu, etc. Il néglige le rôle des boissons sucrées, du racisme, il n'a pas parlé du plomb dans l'eau, il a parlé du fluor, mais pas du plomb, etc., et des pesticides. Donc vous voyez, il y a quand même une contestation également médicale et sanitaire, mais il y a des idées générales dans ce protocole de santé pour les enfants, et je crois qu'il y a deux grands chapitres qui sont très intéressants à étudier, et qu'on peut peut-être étudier maintenant, c'est d'une part la santé, le rôle de l'alimentation, et deuxièmement les vaccins.
Oui, effectivement. D'ailleurs, moi je rappelle que Esculape, le dieu de la médecine, avait deux filles, Hygie et Panacée.
Oui.
Bon, Panacée, c'est le médicament, Hygie, c'est évidemment toutes les mesures préventives, d'hygiène, etc. Et il est effectivement excellent de voir qu'un ministre comme Kennedy revalorise toutes les mesures d'hygiène, évidemment, qui ne rapportent rien à des laboratoires. C'est ça, C'est ça le problème, si vous voulez. C'est facile de faire avancer des mesures pour lesquelles il y a un intérêt financier quelque part, alors que les mesures d'hygiène ne sont pas de même nature. Elisabeth, est-ce qu'il y a des mesures majeures prises dans un autre domaine par Kennedy?
Oui, alors moi je voudrais revenir sur la révolution dans le domaine de l'alimentation, parce qu'effectivement c'est une des deux mamelles de la santé, les médicaments et l'alimentation. Et comme vous le savez certainement, et tous ceux qui sont allés aux États-Unis le savent, on ne mange pas bien aux États-Unis parce qu'on mange beaucoup de nourriture transformée et de nourriture industrielle. Or, là aussi, donc, il y a une captation par un autre géant de l'industrie, qui est l'industrie agroalimentaire. Et ce que Kennedy a fait avec son équipe, c'est de réunir les meilleurs spécialistes en nutrition pour remettre en cause les recommandations nationales en matière de nutrition et finalement redonner aux Américains le goût de manger de la vraie nourriture, ce qui pour nous Français est un peu étonnant parce que je pense qu'on a encore le goût de la bonne nourriture, de la vraie nourriture, même si ça change avec les générations. Et ils ont donc mis au point ce qu'ils appellent une nouvelle pyramide des recommandations alimentaires pour les Américains, hein, donc c'est important, hein, et c'est fait au niveau fédéral. Donc imaginez une pyramide à l'envers, en ayant tout en haut des protéines, des fruits et des légumes, ce qui est révolutionnaire pour les Américains encore une fois. Et puis les bons gras, c'est-à-dire l'huile d'olive, ce qu'on connaît chez nous, donc des gras de qualité. Et ensuite, au milieu, en limitant les sucres lents, les céréales, les glucides, et tout en bas, bannir autant que faire se peut le sucre. Or, ça, c'est pas possible si on mange de la nourriture ultra transformée et industrielle. Cette pyramide a été publiée en janvier 2026 officiellement par le HHS. Et elle s'applique quand même à, eh bien, effectivement, les repas, les cantines dans les écoles, puisque, comme on l'a dit au début de l'émission, le niveau fédéral a récupéré le contenu des repas qui sont distribués aux enfants dans les écoles, au niveau fédéral. Ça concerne également tout le personnel militaire, tous les vétérans, et ensuite, tous les Américains pauvres, puisque au sein du HHS, il ne faut pas oublier les services sociaux, c'est-à-dire l'équivalent chez nous de la Sécurité sociale et de la CMU. C'est-à-dire qu'il y a environ 40 millions de pauvres aux États-Unis, hein, c'est énorme, qui sont bénéficiaires de bons alimentaires, et du coup, qui sont distribués par le gouvernement fédéral, par HHS, et ces bons devront maintenant se conformer à cette nouvelle pyramide qui devient officielle pour les années 2026-2030.
Oui, ça c'est une excellente nouvelle.
Une excellente nouvelle, ça a été quand même salué par, je crois, par plus une majorité de gens. Alors est-ce que ça va être mis en œuvre? Ça va prendre forcément du temps. Mais il y a moins le sujet de controverse qu'il y a sur les vaccins, bien sûr.
Oui, ben c'est plus difficile de s'y opposer intellectuellement, c'est sûr.
Tout à fait, exactement.
Oui, alors, tandis que pour les vaccins, là, je me tourne vers vous, Bernard Roulet, il y a eu la question du calendrier vaccinal, et là, il y a aussi des changements importants du côté de Kennedy.
Oui, alors on a déjà parlé dans l'émission des nombreuses actions qui pouvaient toucher les vaccins, notamment les vaccins ARN messagers, etc. Alors ce qui s'est passé en fin d'année 2025 et début 2026, c'est que le président Trump, qui s'était ému du nombre de vaccinations pratiquées chez les enfants, je parle des enfants surtout, parce qu'il y a eu un calendrier vaccinal adulte, mais enfin qui a pas,
qui, Il changeait moins de choses.
Oui, voilà, qui a déjà été publié. Et donc là, ce qui était en jeu, c'était la vaccination chez les enfants. Comme vous le savez, les États-Unis sont proches du record mondial de nombre de vaccins ou de doses et d'injections de maladies ciblées, champion mondial, toute catégorie. La France n'est pas loin derrière, mais donc il y a eu une ordonnance de Trump en disant est-ce qu'on ne pourrait pas comparer le schéma vaccinal américain, ce qui est recommandé, avec ce qui se passe ailleurs, dans les pays de l'OCDE, en gros. Par exemple, le Danemark, qui recommande que très peu de vaccins, une dizaine en routine, a des indices de santé des enfants aussi bons, voire meilleurs que les États-Unis. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir autant de vaccins? Donc ça, c'est à la suite de ce rapport qui disait que les USA étaient champions du monde, il y a eu des propositions, début janvier, de Kennedy, et dont les principes étaient les suivants. On voulait recommander les vaccins pour lesquels il existe un consensus dans les pays développés. Donc on est passé par non pas les bases scientifiques, mais une comparaison avec les pays développés, ce qui se fait ailleurs, et pour comme si la moyenne de ce qu'ils faisaient était la vérité. Et introduire plus de flexibilité, moins de coercition, réservant les vaccins qui ne sont pas strictement consensuels à certains groupes supposé à risque, et rétablir pour certains vaccins ce qu'on appelle en américain la décision médicale individuelle, c'est-à-dire une décision du médecin traitant, finalement.
Ça serait une très bonne chose.
Il y a beaucoup d'organismes comme la Ligue pour la liberté de vaccination, tous les gens qui sont pour la liberté de vaccination disent c'est un acte médical, on décide au cas par cas avec un médecin. C'est pas vraiment le cas, puisque il y a des recommandations visant la population générale.
C'est absurde qu'un ministre derrière son bureau sache mieux ce qui convient à un enfant que le médecin qui a cet enfant devant lui.
Oui, mais enfin, il vous répondra qu'il se base sur des travaux
statistiques, oui.
Statistiques, oui, mais justement. Et des pédiatres. Bon, alors, ça a été accusé d'être ce programme d'anti-vax, parce que ça ne supprime pas du tout le remboursement des vaccins qui sont déjà en place. Donc, Medicaid est parfaitement autorisé à rembourser les vaccinations. Donc, on ne peut pas dire que ça soit très anti-vaccinal. Les familles qui souhaitent vacciner leur enfant n'auront rien à débourser de plus de leur poche. Ça, c'est clairement affirmé. Enfin, le quatrième principe, c'était de renforcer la recherche vaccinale dans tous les domaines de sécurité à long terme et moyen terme. Alors, qu'est-ce qui change dans ce nouveau schéma? C'est très important, c'est très intéressant. Il y a trois catégories d'enfants, si vous voulez, et de maladies. Il y a une première catégorie qui concerne les vaccins que l'État américain va recommander à tous les enfants, quel que soit leur état. C'est ce qu'on appelle, je l'appellerai, la vaccination généralisée. Alors, dans ces groupes, il y a la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, sous forme du vaccin acellulaire, l'hémophilus, le pneumocoque, la poliomyélite, la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas quand même de suppression.
Il y en a un bon paquet.
Il y a un bon paquet qui sont conservés.
Mais c'est recommandé ou c'est imposé?
Ah, c'est pas imposé, c'est recommandé.
C'est recommandé.
C'est-à-dire, le ministère vous recommande ça pour tous les enfants, quels qu'ils soient. Voilà. Dans ce cadre, il y a également un vaccin, ce qui est surprenant, anti-HPV, contre
le papillomavirus, y compris pour les garçons.
Voilà. Alors, je cite le CDC qui a promu cette rue. Le CDC entend ainsi assurer une robuste protection contre les morbidités sévères et la mortalité des enfants et des adolescents. Alors, on remarque que les vaccins contre l'hépatite B et le Covid sont exclus de ce cadre universel et donc réservés à des situations beaucoup plus particulières, alors que le Gardasil, le vaccin HPV, est lui conservé. Bon. Deuxième catégorie, c'est dans cette catégorie générale, donc disparaît la vaccination contre l'hépatite des enfants, dont au cours de l'année 2025, Kennedy avait dit qu'elle n'était pas scientifiquement fondée, elle disparaît d'une recommandation universelle. Et les vaccins de la grippe chez les enfants, qui étaient recommandés aux États-Unis. Donc, deuxième catégorie, ce sont des vaccins recommandés pour certains groupes à risque. C'est donc ce qu'on pourrait appeler une vaccination ciblée sur une population à risque. Alors, quels sont les facteurs de risque considérés par le calendrier? Par exemple, une exposition individuelle à la maladie, des comorbidités qui feraient que cette maladie serait beaucoup plus grave, un risque de transmission élevé à d'autres personnes. Voilà. Donc, dans ce cas-là, les vaccins de ce cadre sont dirigés contre le virus syncytial respiratoire, responsable de la bronchiolite. Vous voyez qu'il n'est donc pas recommandé à tout le monde, mais seulement à des cas particuliers. Les hépatites A et B, la dengue, les méningocoques, qui sont obligatoires en France, deviennent là uniquement à la demande en cas de haut risque. On pourrait dire à propos du vaccin contre l'hépatite qu'au lieu de le généraliser à tous les nourrissons, on le recommande pour une maman qui accouche alors qu'elle est infectée par le virus.
Bien donc, sûr,
le vaccin, là, l'enfant à naître sens, ou l'enfant né est à très haut risque de et donc on peut vacciner. Voilà. Troisième catégorie d'indications, comme on dit sur le plan médical, c'est les vaccins qui sont laissés à la totale décision individuelle du médecin traitant. C'est-à-dire, ça devient une indication individuelle au cas par cas. C'est le médecin qui décide. Dans ce cadre, sont regroupés des vaccins pour lesquels les autorités ne sont pas capables de définir, je cite, le rapport bénéfice-risque ou le bénéfice que procure la vaccination pour des populations à risque, ni de déterminer si ce risque est pertinent ou pas. Ça serait, par exemple, si on prend l'exemple de l'hépatite, B, une maman qu'on suppose à risque, mais dont on n'a pas la preuve, qui n'est pas infectée, mais qui serait peut-être à risque. Alors, est-ce qu'il faut vacciner son bébé?
À ce moment-là, c'est
le médecin qui pourrait décider.
Ben, voilà. Ça paraît une très bonne orientation.
C'est ce qui a provoqué une levée de bouclier très importante, à la fois par l'Association des pédiatres américains, mais aussi par des vaccinologues, si on peut les appeler comme ça, français, qui disent que ça supprime l'égalité, l'équité.
Il n'y a jamais d'égalité en matière de santé.
Oui.
Face à un vaccin,
il y a une inégalité biologique. Il y a des gens qui sont mieux répondeurs que d'autres, par exemple. En quoi la loi va pouvoir modifier ça? Enfin, il y a ce souci, notamment en France, notamment dans les gens qui soutiennent la politique vaccinale généralisée, d'un souci d'égalité. Les gens qui sont à risque, par exemple pauvres, etc., qui ont moins d'accès aux soins, ils vont avoir une vaccination comme les autres. Et ça, c'est le principe d'égalité. C'est ça qui motive, in fine, même dans les critiques, pas des données scientifiques, mais cette impression d'égalité.
Oui, mais ça, c'est vraiment une régression d'introduire l'idéologie dans une question médicale qui devrait rester objective et scientifique. Et ça nous montre bien donc, toute cette opposition de Kennedy. Finalement, c'est un système auquel il s'attaque. Et là, je me tourne vers vous, Elisabeth, pour conclure un petit peu cette émission. Donc, on a une bataille très forte. Alors, il y a la question de l'autisme qui a joué un rôle important. Et donc, quel est l'avenir de Kennedy? Va-t-il pouvoir rester? Est-ce que Trump lui-même va rester? Comment voyez-vous le futur proche de la santé américaine?
Alors, c'est vrai que depuis, comme j'imagine les auditeurs et vous-même, vous suivez tout ce qui se passe aux États-Unis, surtout à l'international, les actions rocambolesques et les revirements de Trump sur les différents conflits en cours dans le monde, qui est entrepris sous son gouvernement. Donc, en matière de politique intérieure, il va être confronté au fait que partout, comme partout, les prix de l'essence augmentent et ça risque de continuer. Donc, avec des risques d'inflation et une économie qui va pas très bien. Alors, est-ce que Kennedy, au milieu de ces soubresauts, pourra continuer les réformes qu'il a entreprises? Je l'espère. Il y a eu effectivement le CDC dont on parlait et qui recommande ce fameux calendrier vaccinal, a eu du mal à trouver un directeur qui aille dans le sens de Kennedy. Donc là, c'est Trump qui a nommé Erika Schwartz, qui est une ancienne de son premier gouvernement, mais elle n'est pas encore confirmée par le Congrès. C'est une médecin militaire. Moi, je crains qu'on s'éloigne un peu de ses priorités du fait de l'approche des midterms. Est-ce que lui, Kennedy, restera en poste? On peut s'attendre à tout avec Trump,
Voilà,
je crois.
écoutez, je crois que c'est ce qu'il faut souhaiter, aussi bien
On
pour lui,
l'espère.
bien sûr, et peut-être aussi pour nous, parce que si je me permets de conclure sous cette forme, Kennedy, c'est un champion pour la santé des Américains, mais c'est un exemple pour des pays comme le nôtre, et je ne peux que souhaiter évidemment qu'il reste et qu'il puisse mener son programme jusqu'au bout. Quelques annonces. Alors les Cahiers Saint-Raphaël, le dernier numéro, très intéressant, sur soulager la douleur. Donc tout ce qui concerne les soins palliatifs. Donc je vous recommande ce numéro. Et également le CEP, le dernier numéro du CEP est sorti avec toujours un grand nombre d'éléments différents. Donc je rappelle que pour s'abonner au Cahier Saint-Raphaël, il faut envoyer un chèque de 25 € à Assim, 2 route d'Équillens, 62 360 Saint-Étienne-au-Mont. Et pour la revue Le CEP, le plus simple est de se rendre sur le site le-cep.org, hein, où on peut aussi s'adresser au secrétariat s.cep@wanadoo.fr ou téléphoner 03 86 31 94 36. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Je remercie chaleureusement les deux intervenants. Vous avez noté que c'est une émission qui a été extrêmement instructive. Ça n'est pas une émission où on débat d'opinion. Et je pense que vous avez été sensible à l'érudition et au travail que les intervenants ont utilisé pour y arriver. Bon, ça c'est quand même important. Peut-être un mot de conclusion, Bernard Roulet. Un mot.
Pour rejoindre ce que disait, je ne suis pas sûr de l'avenir. D'abord, il faut rester lucide, se baser sur les faits, la réalité de la santé américaine. Est-ce qu'elle va être améliorée? Est-ce que les décisions vont entrer en pratique, d'une part? D'autre part, j'ai entendu dire qu'actuellement, une grande offensive auprès des futurs élus des élections est en cours pour déconsidérer la politique anti-vaccinale, soi-disant anti-vaccinale, de Kennedy. Donc il est vraisemblable que dans ce domaine, il y ait un ralentissement ou une occultation des problèmes. Mais l'espoir vient d'une autre étude dont j'ai eu connaissance il y a très, très peu de temps, 2, 3 jours. Une très grande enquête sur les liens entre l'autisme et les facteurs
Voilà, donc ça
est en
c'est.
cours,
Oui,
ou
ça
va
c'est.
être déclenchée avec des
Voilà.
moyens épidémiologiques colossaux.
Donc ça c'est très bien de terminer cette émission sur une note d'espoir. Et donc je vous dis à tous bon dimanche et nous retrouverons le mois prochain. À bientôt.
Merci.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance de Dominique Tasso, diffusé en direct sur Radio Courtoisie le 24 mai 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.